Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement a publié hier à Kinshasa son rapport sur les atrocités dans la partie sous occupation en rebelle. En une année, au moins 15 700 personnes ont été tuées, plus de 800 enlevées, sans compter des cas de torture et autres traitements inhumains. Ces violences ont jeté sur les routes au moins 7 millions de personnes, dont des femmes et des enfants. Le caucus des députés nationaux de Lomami est venu plaider la cause de cette province du pays auprès de la première ministre. La Lomami est enclavée sans infrastructure, avec toutes les conséquences que cela implique pour la population. Ces élus ont obtenu des engagements de Judith Souminois et disent en attendre la concrétisation. À l'occasion des 20 ans de la Constitution, un avocat du barreau du Kasaï central lance une pétition pour sa révision. Parmi ses propositions, le transfert de la capitale à Matadi, l'instauration d'un quota de 30% des jeunes et 30% des femmes au gouvernement et la suppression du Sénat. Maître Christian Moulamba est notre invité ce matin. Bienvenue à cette édition du journal. Au moins 17 015 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique recensés dans la partie sous occupation rebelle en l'espace d'une année. C'est ce qui ressort d'un rapport du gouvernement central publié hier samedi à Kinshasa. Sur ce cas, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, signale 15 769 d'atteinte à la vie, 829 d'enlèvement, 417 de torture et autres traitements inhumains dans cette partie du pays. La première ministre salue cette initiative qui soutient les démarches diplomatiques et judiciaires du gouvernement congolais. Des explications avec Blaise Ntongala Mayanda.
Dans sa prise de parole, le ministre des Droits humains a signalé que ces violences ont occasionné environ 7 400 déplacés internes et externes au nord et au sud Kivu. Ces membres du gouvernement ont rendu hommage aux défenseurs des droits de l'homme, aux délégués des différents ministères ainsi qu'aux acteurs de la société civile ayant contribué à la rédaction du dit rapport. Il a également salué leur courage, soulignant qu'ils ont bravé la peur pour réaliser ce travail. Pour sa part, la première ministre a exprimé sa satisfaction de la rédaction du rapport sur la situation des droits humains dans l'est du pays. Judith Souminois précise que ces documents constituent un outil stratégique et juridique majeur pour étayer les démarches diplomatiques et judiciaires engagées par les gouvernements congolais. Elle a à cette occasion salué la lucidité et l'engagement du ministre des droits humains Samuel Mbemba, qu'elle a remercié pour sa contribution active à ces combats initiés par le président de la République. Cette forte mobilisation témoigne de la volonté des autorités du pays de faire de la question des droits humains une priorité nationale et de porter la voix des victimes sur toutes les tribunes, tant nationales qu'internationales.
C'est aussi pour aider les populations vulnérables dans l'est du pays que la Chambre du commerce et d'industrie franco-congolaise, ses sponsors et partenaires, ont apporté un soutien de 25 810 dollars américains à l'ONG internationale humanitaire française Action contre la faim. Ces fonds récoltés au cours d'un dîner de gala organisé il y a quelques temps à Kinshasa ont permis de réhabiliter et équiper 9 centres de santé et 7 maternité dans les zones de Drodro en Ituri et de Bambo au Nord Kivu. La restitution des actions menées grâce à ces fonds a eu lieu vendredi à Kinshasa. Il était avec Jean-Marc Matouaki.
Au cours d'une conférence de presse animée à la Chambre des commerces et d'industrie franco-congolaise, les organisateurs ont fait savoir que cette initiative vise à soutenir la santé maternelle, infantile et des populations vulnérables. Selon la directrice générale de la Chambre des commerces et d'industrie franco-congolaise, Hélène Dufard, Jean Prédon, l'impact de cette action est double.
D'abord, on a mobilisé pour une association qui œuvrait pour la lutte contre la faim dans l'Est notamment, les victimes de l'Est. Et puis, c'est nous qui avons mobilisé effectivement tous les sponsors et les donateurs pour arriver à avoir un montant relativement important pour pouvoir justement avoir un impact sur la santé des personnes, sur le mental, etc. Voilà. On mobilise les entreprises et après faire que les dons puissent être affectés à leur une vraie cause et que les fonds soient utilisés vraiment pour le but pour lequel c'était fixé.
Pour sa part, la directrice pays de l'ONG Action contre la faim, Julie Drouet, s'est réjouie des résultats escomptés, récoltés à travers cette action humanitaire au profit des nombreuses familles dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Concrètement, réparer, réhabiliter les centres de santé et les maternités, ça permet d'avoir un accès plus sûr et plus digne dans la prise en charge des soins pour les populations qui vivent à Bambo et à Drodro. Tous les centre de santé et maternité qu'on a appuyé, c'est 13 000 consultations mensuelles pour les mères et les enfants principalement qui vivent dans ces zones-là.
Dans ce moment, Niéma, à présent, le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC a mis autour d'une table vendredi à Kindu des membres de la société civile et les coopératives minières du Maniéma. Objectif, les sensibiliser pour leur participation au forum sur les coopératives minières en RDC, rencontre prévue au mois de mars prochain. Selon les organisateurs, ce forum vise à analyser les défis que rencontrent les coopératives minières et voir aussi en comment les relever. C'est ce qu'explique ici Eloi Boudi Boulia, cofondateur de cette structure, au micro de Florence Kizalunga.
L'objectif de ce forum, c'est de créer un cadre permanent de concertation entre les coopératives minières et les gouvernements, parce que nous constatons que parmi les défis que rencontrent les coopératives, il y a d'abord les défis des agréments par le ministre des Mines, les défis des institutions des zones d'exploitation artisanale, toujours par le ministre des Mines, mais ces choses-là évoluent dans une lenteur inimaginable. Et celui qui délivre ces arrêtés, c'est le ministre des Mines. Mais il n'y a pas un cadre dans lequel les coopératives minières peuvent les rencontrer pour lui exprimer toutes leurs préoccupations. C'est pourquoi nous avons souhaité mettre en place ce cadre de concertation permanente. Nous voulons également contribuer à la formalisation du secteur minier artisanal. Les coopératives minières ont été choisies comme modèle de formalisation, mais jusque-là, c'est un vain mot. Ça n'a pas de contenu. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que la formalisation du secteur minier artisanal soit effective? Le dernier objectif, c'est de voir comment mobiliser les partenaires à pouvoir soutenir les coopératives pour quitter cette exploitation rudimentaire et faire de la petite mine afin d'atteindre l'objectif de créer la classe moyenne congolaise à travers le secteur minier.
Dans la commune rurale de Mangina, une trentaine de kilomètres de la ville de Benio Nord Kivu, les services de sécurité mènent depuis vendredi une opération de démantèlement de fumoirs et de maisons de tolérance. C'est à la suite d'une alerte de la société civile locale qui dénonce la présence dans le milieu des cachettes entretenues par des bandits armés, ainsi que la dépravation des mœurs qui y prend de l'ampleur. Les activistes de droits de l'homme à Mangina saluent cette opération et demandent qu'elle se poursuive jusqu'à l'éradication complète de ces lieux de dépravation des mœurs. L'un d'eux, Musubao Kiwanza, exprime sa satisfaction au téléphone de Marc Marofimbo.
Nous remercions grandement le comité de sécurité de Mangina ainsi que l'auditorat militaire pour cette opération et nous encourageons le comité de sécurité de continuer et de ne pas cesser parce que s'il y aura trêve, ces gens vont encore se réorganiser et nous aimerions à ce que le comité de sécurité de Mangina puisse poursuivre cette opération sans s'arrêter afin de pouvoir se rassurer que les chanvres ou les fumoirs sont déjà éliminés. À côté de cela, faut aussi chercher à traquer les Kijé. Parce que c'est là les Kijé qu'on trouve de bandits. Et les enfants sont en train d'être détruits là-bas. La morale des enfants, des jeunes filles, même des jeunes garçons, détruits dans les Kijé. Demandons à ce que l'État congolais, à travers notre comité de sécurité de Mangina, puisse continuer avec cette opération.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé jeudi dernier à Kinshasa une audience au caucus des députés nationaux de l'Omami, conduite par son président Augustin Mulumba Akanza. La délégation est allée porter la voix d'une province qui se dit totalement enclavée et en quête d'un accompagnement accru du gouvernement central. À l'issue des échanges, le président du caucus n'a pas mâché ses mots. La Lomami, selon lui, cumule des retards structurels depuis son avènement comme province. Augustin Mulumba Akanza explique un peu plus leur démarche dans cet extrait choisi par Jude Mister Bilanda.
Nous avons cherché à rencontrer la première ministre chef du gouvernement pour les problèmes de notre province. Comme vous le savez bien, nous sommes une province totalement enclavée. Nous avons à maintes fois exposé les problèmes de nos différentes entités, dont notamment nos provinces. Aujourd'hui, d'une oreille attentive, elle nous a bien répondu et nous continuons à attendre. S'il faut bien le dire, la province de Lomami a 5 territoires. Tous les 5 territoires et les 2 villes sont totalement enclavées. Aucune route asphaltée. Et plus aujourd'hui qu'avant-hier, il y a un drame mortel qui s'est produit parce que nous sommes restés dans un seul tunnel où il faut passer par les bacs à cabine pour arriver même dans les chefs-lieux de province, donc il n'y a pas de route. C'est une province qui existe depuis le démembrement. Et lorsque nous sommes démembrés du Kassai Oriental, nous sommes partis sans les patrimoines. Les patrimoines sont restés dans la province du Kassai Oriental. À côté, nous voyons les routes qui sont en train d'être construites. 150 km, on ajoute 25. Mais nous n'avions tout simplement que 15 km dans le cadre du projet Tshilo-Gilo. C'est comme ça que nous sommes venus rappeler à la première ministre, lui dire la quintessence du gouvernement à soutenir cette province. La première ministre nous a répondu positivement et nous attendons de belles réponses et la réaction spontanée de sa réponse qu'il nous a donnée aujourd'hui.
Et au Kasaï central, après une année d'arrêt, les travaux de construction de 3 châteaux d'eau dans les territoires de Demba ont repris vendredi. Ces infrastructures, dont le taux d'exécution des travaux est déjà estimé à 70%, sont réalisées dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises, financé par la Banque africaine de développement. Ce projet vise à améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations locales. La société civile du territoire de Demba salue cette reprise. Mais qu'en est-il exactement de ces travaux? André Katendengalamloumé.
Les travaux concernent 3 sites. À Zapo-Zapo, les chantiers sont terminés. Il ne reste plus que la mise en service pour lancer la distribution d'eau à la population. Dans la commune rurale de Demba, les tuyaux sont déjà installés, mais le château d'eau est encore en construction. Enfin, à Beneleka, le château est achevé. Toutefois, les conduites de distribution ne sont pas encore posées. Selon l'ingénieur en charge du projet, tous les matériaux qui faisaient défaut sont désormais disponibles sur les différents chantiers. Marcel Massanka, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise de Demba, se réjouit de cette relance. Lancé en 2024 pour une durée d'un an, le projet avait été suspendu en raison notamment du retard de financement du gouvernement central, des vols répétés de matériaux et du manque d'implication de certaines autorités locales. Suite à cela, Marcel Massanka appelle à la responsabilité de tous afin de garantir l'achèvement des travaux et assurer enfin un accès durable à l'eau potable pour la population de Demba. Kananga, André Katendengalamoulume, Radio Kapi.
Et puis cette bonne nouvelle en Ituri, 71 petites et moyennes entreprises locales bénéficieront des subventions dans le cadre du projet Transform. Elles ont été présentées au public vendredi à Bounia. Ces entreprises ont été sélectionnées après une évaluation de leurs activités, notamment leur impact en faveur de la population et leur contribution au développement local. Selon les responsables du programme, chacune d'elles pourra recevoir en moyenne 55 000 $ américains. Ces fonds servent principalement à l'acquisition d'équipements et de moyens de production. Un accompagnement technique est également prévu pour soutenir leur croissance. Jean-Luc Moilou, chargé de communication du projet Transform, explique ce qu'il en est au micro d'Isaac Raymond.
Pour la ville de Bounia, nous avions sélectionné 71 petites et moyennes entreprises de plus de 3 ans. Donc à cette occasion, il était important de les présenter officiellement à la communauté pour qu'elle soit connue et que nous puissions également fixer les étapes qui vont venir après la sélection, les opérations de cadrage, les prépare à recevoir la subvention. En moyenne, c'est quelque chose qui avoisine les 55 000 $américains. L'accompagnement, c'est un accompagnement personnalisé sur tous les besoins qui concernent la croissance de leur entreprise. Il s'agit d'apporter un ensemble technique d'abord avec du coaching et un accompagnement personnalisé. L'entreprise de tel secteur a besoin de quoi exactement? Est-ce un problème d'accès au marché? Est-ce un problème de gestion de clientèle? Un problème d'accès à telle ou telle autre ressource? Mais bien évidemment, il y a l'accompagnement financier avec non seulement la subvention, mais l'accord conclu avec un certain nombre de banques commerciales pour accompagner ces PME dans l'acquisition de leur matériel de production.
Notez que parmi les principaux défis à relever pour assurer la réussite de ces entreprises figure la restauration de la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri, une responsabilité qui incombe à l'État congolais, déclarent certains lauréats. Plusieurs détenus de la prison centrale de Bounia retombent dans la récidive après avoir purgé leur peine. En cause, le manque d'activité favorisant leur autonomisation après de longues années de détention. Pour faire face à cette situation, l'ONG Sophie Paddy, avec l'appui de la police d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, a organisé une formation professionnelle, de 3 jours à l'intention des détenus femmes. C'est pour faciliter leur réinsertion sociale et contribuer à la réduction des violences dans la communauté après leur libération. Que retenir, Isaac Raymond?
Des dizaines de femmes et de jeunes filles détenues ont bénéficié d'une prise en charge psychologique, une assistance destinée à les aider à surmonter les traumatismes qui poussent certaines d'entre elles à consommer de la drogue en milieu carcéral. Elles ont également reçu un accompagnement juridique pour le suivi de leurs dossiers et l'accélération des procédures judiciaires. En plus de cela, ces détenus ont été formés à plusieurs métiers professionnels, notamment la fabrication des paniers et la pâtisserie. Selon les bénéficiaires, dont la majorité n'a pas un niveau d'études avancé, succès, cette formation représente une véritable opportunité. Elle pourrait leur permettre de développer des activités génératrices de revenus, même en milieu carcéral.
Franchement, c'est bénéfique pour les mamans. Parce que dès lors que tu es à l'extérieur, tu peux confectionner des paniers, tu peux les revendre, tu trouveras quand même quelque chose pour des besoins préliminaires.
Pour la SOFEPADI, cette initiative s'inscrit dans une approche de prise en charge holistique des détenus. L'objectif est de favoriser leur réinsertion sociale. Mapendo Lenganaito, chef de bureau de la SOFEPADI.
Quand on est incarcéré, la vie qui est un peu arrêtée, cela va les aider à être autonomes et limiter surtout la question des récidives.
Le directeur de la prison, pour sa part, salue cette initiative. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capital.
À Kinshasa, trois ouvrages intitulés Ifoku tome 1, Moukole tome 2 et Malisa tome 3, parus aux éditions Le Temps d'un roman, Collection Roman et LVL Rédaction, ont été présentés officiellement vendredi au Centre Wallonie-Bruxelles. Ces ouvrages portent la signature d'Obed Chilombuji Muyumbe, acteur politique, entrepreneur et opérateur culturel. Ces publications s'inscrivent dans un vaste projet multisectoriel intitulé Le cœur de Kinshasa. Ce triple vernissage a coïncidé avec le lancement de trois programmes économiques majeurs dédiés à l'éducation, à la lutte contre le changement climatique ainsi qu'à l'autonomisation des femmes et des enfants. L'auteur invite les Congolais à tous les niveaux à conjuguer des efforts en synergie pour le bien-être de l'humanité. Au Belge Chilomboji, on parle au micro de Jean-Marc Matwaki.
Si vous n'allumez pas votre lumière, personne ne va vous voir. Et si vous ne savez pas l'allumer, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je vous ai aidé à faire quoi? À l'allumer. On ne se sauvera jamais les uns sans les autres. Nous sommes interconnectés. Nous représentons le Ubuntu, Umoja, Bobumua et Longo. Si on veut sortir de la meute, on sera seul dans le froid. Même si on érige un immeuble de 200 niveaux, on vivra une vie misérable. Nos misses vont nous en dire longtemps. Et pour beaucoup d'entre vous, dans leur cœur, je pense que aujourd'hui, je ne viens pas pour le triple vernissage d'une saga tétralogique, mais je viens pour vous montrer qu'en chacun de nous, il y a une lumière que nous devons allumer. Si c'est éteinte, nous devons la rallumer.
Actualité internationale.
Le programme alimentaire mondial PAM a averti vendredi qu'il serait contraint d'interrompre son aide humanitaire en Somalie dès le mois d'avril en l'absence de nouveaux financements. L'agence onusienne indique avoir besoin de 95 millions de dollars américains pour maintenir entre mars et août de cette année une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale aux populations les plus vulnérables. Ceci qu'a déclaré le directeur de la préparation et de la réponse aux situations d'urgence de l'agence, de nouvelles que rapporte africanews.fr. Ross Smith précise que la situation se détériore à un rythme alarmant, les familles ont tout perdu et beaucoup sont déjà au bord du gouffre.
L'invité.
À l'occasion du 20e anniversaire de la Constitution du 18 février 2006, un avocat du barreau de Kasaï Central lance une pétition en vue de sa révision. Maître Christian Moulamba plaide pour un renforcement de l'organisation de l'État et des provinces ainsi qu'une modernisation en profondeur du cadre institutionnel. Parmi les propositions phares de cette initiative figurent les transferts de la capitale à Matadi, l'instauration d'un quota obligatoire de 30% des jeunes et 30% des femmes au sein du gouvernement ainsi que la suppression du Sénat. Maître Christian Moulamba explique sa démarche ainsi que les grandes lignes de sa proposition au micro d'André Katendenga Lamoulumé.
Maître Christian Moulamba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes initiateur d'une pétition visant la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006. Qu'est-ce qui vous a motivé à initier cette pétition?
Conformément à l'article 218, il est reconnu à chaque citoyen d'initier une révision constitutionnelle. La mission poursuivie, c'est de moderniser l'architecture institutionnelle, créer des chambres d'appel au sein de la Cour constitutionnelle et aussi la Cour de cassation, renforcer la gouvernance démocratique et aussi consolider l'indépendance de la justice. Dans l'actuelle constitution, l'article 149, les parquets ne plus dans le pouvoir judiciaire. Aussi, la promotion de l'inclusion des femmes et des jeunes, d'une manière générale, clarifier certaines ambiguïtés constitutionnelles.
Quels sont les articles visés dans cette pétition?
Parmi les articles visés par cette révision, il y a l'article 1, l'article 2, l'article 14, 72, 74, 75, 77, 85, 90, 100, 149, 151, 158.
Maître, dites-nous quels sont les grands points de votre pétition?
Premièrement, l'instauration d'un parlement monocaméral, c'est-à-dire le pouvoir législatif sera exercé exclusivement par l'Assemblée nationale. Et en dehors de ça, l'instauration de l'anglais comme l'une des langues officielles. J'ai visé l'article 90 qui parle de la composition du gouvernement. Je vise un quota de 30% pour les jeunes, 30% des femmes. Ce sont des pourcentages obligatoires. Et aussi, les transferts de la capitale vers Matadi. Kinshasa connaît aujourd'hui une situation préoccupante. Superpopulation, urbanisation anarchique, congestion routière permanente, insalubrité. En dehors de ça, la réintégration du parquet dans le pouvoir judiciaire. Le Tetela sera reconnu comme l'une des langues nationales. Les Tetela ont joué un rôle très important dans ces pays et notre héros national est Tetela. J'ai proposé la création des chambres d'appel au sein de la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. En droit, il y a le principe des doubles degrés de juridiction. Les gens qui sont jugés devant des hautes juridictions, ils ne jugent pas de ces droits. C'est-à-dire lorsqu'ils sont condamnés, c'est au premier et dernier ressort. Le mandat du président de la République, j'ai précisé, lorsque vous lisez la Constitution, vous dit « Le président est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. » On crée une confusion. Lorsqu'on parle du renouvellement en droit, on voit les mandats successifs. Qu'en est-il d'un président, par exemple l'ancien président, qui a laissé le pouvoir? Est-ce qu'il peut revenir en 2028? La Constitution ne l'a pas interdit. Voici l'une des conditions que j'ai ajoutées. Nul ne peut se porter candidat à la présidence de la République s'il a déjà exercé des mandats complets. Si vous avez déjà exercé des mandats, que ce soit successif ou avec une interruption, vous ne pouvez plus revenir au pouvoir.
Comment vous allez procéder pour collecter les signatures au niveau de la République?
Merci beaucoup pour cette question. J'ai déjà d'ailleurs récolté plus de 1500 signatures. J'ai déjà un plan de démobilisation. Plusieurs conférences seront organisées dans des différentes universités, ici à Kananga, Mbujima, à Tshikapa. Et des grandes actions seront aussi menées à Kinshasa, Lubumbashi et ailleurs. La mission principale, c'est d'abord de convaincre la population. Parler du bien fondé de ma pétition, parce que déjà, j'ai déjà beaucoup de retours. Les gens sont prêts à signer la pétition. Donc, il y aura des sensibilisations aussi par le média. Donc aussi un fichier Excel sera mis en place pour récolter des signatures de la diaspora et d'autres personnes.
Quel message vous lancez à tous les Congolais qui vous écoutent en ces moments?
À tous les Congolais, voici mon message. Par cette pétition, je ne cherche pas à bouleverser l'équilibre fondamental de notre République. Je cherche à corriger des faiblesses observées dans la pratique, à moderniser nos institutions et renforcer durablement l'état des droits. Ne pas agir aujourd'hui, c'est accepter la persistance des ambiguïtés et des déséquilibres structurels. J'invite toute la population de soutenir cette pétition, de signer la pétition et au mois de mars, vers la fin, je serai à Kinshasa pour déposer ça à l'Assemblée nationale.
Nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Maître Christian Moulamba, avocat au barreau du Kasaï central, auteur d'une pétition visant la révision de la constitution du pays. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jude Mista Bilanda, mis en onde par André Mongo, avec Pabel Pongo Massimango à la présentation. Merci de votre attention. Bon dimanche.